En fait, j'avais prévu de terminer ce message avec le même texte que Luc avait cité tout à l'heure pour terminer son introduction sur Jésus qui frappe à la porte. Alors, hier, on était donc à Scaradeo pour un super moment de tabernacle, de louange, et Dieu nous a rencontrés ici, il nous a fait du bien, et on veut continuer ce matin. Non pas avec les choses anciennes, mais de nouveau ce matin, les nouvelles choses. Et donc c'est bientôt Noël, et Jésus est venu, et tout a changé pour l'humanité, pour ceux qui l'ont accueilli, et même, je pense, pour ceux qui ne l'ont pas encore accueilli. Et les choses ont changé, et donc nous voulons nous réjouir pour cela. Alors ce matin, on a déjà chanté que nous avons soif, et ben ça tombe bien parce que je vais reparler du cycle de l'eau. Je vous en ai parlé il y a quelques mois, alors vous allez me dire, bon, il se répète. Alors j'ai retenu dans un ancien cours qu'il y a différents types narratifs. Alors Anne, je tremble en disant ces choses parce que peut-être que les termes ne sont pas tout à fait justes, mais j'ai retenu qu'il y avait il y avait la façon linéaire de raconter une histoire, c'est-à-dire qu'il y a le début et la fin de l'histoire. Et puis il y a une façon hélicoïdale, alors je ne sais pas si ça le mot est juste, mais Anne fait des grimaces. En fait, le principe, c'est que on commence une histoire, on revient toujours au début, mais on continue un peu l'histoire, on revient au début, on continue. Et il paraît que c'est un peu plus la façon orientale de raconter une histoire. Alors peut-être que je suis un peu oriental. La Suisse est orientale. Donc je vous avais parlé du cycle de l'eau, que l'eau, il n'y a que 30% de l'eau qui vient en fait de la mer, et que le reste vient du continent. Et c'est l'évaporation des plantes, enfin toute cette vie de la terre qui produit cette évaporation et qui redonne des nuages qui vont de nouveau faire pleuvoir. Et on avait constaté le problème qu'en fait, s'il n'y a que 30% de l'eau qui vient de la mer, il faudrait qu'il n'y ait que 30% qui retourne à la mer. Et là, on a donc des problèmes parce qu'il y a trop d'eau qui part directement dans la mer, et ça crée aussi les difficultés qu'on rencontre en ce moment. Mais je ne veux pas revenir là-dessus. En tout cas, cette histoire de cycle de l'eau m'a fait penser à cet arbre dont je vous ai déjà parlé aussi, qui se trouve dans le psaume 1er. Heureux l'homme, donc je passe les premiers versets, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Et cet arbre près d'un courant d'eau, en fait, il prend l'eau qui passe devant lui, mais il en retient une partie. Et donc, plus il y a d'arbres, plus ça retient de l'eau. Et cette eau traverse toute sa sève et son être, et finalement est restituée aussi dans l'atmosphère. Et cet arbre, son feuillage reste vert, enfin celui du psaume 1er, cet arbre reste toujours vert. Et après, il dit aussi que tout cet homme qui ressemble à cet arbre, tout ce qu'il fait réussit. Mais cet arbre permet à de nombreux animaux, des petits animaux, de trouver refuge. S'ils sont dans la tempête, ils peuvent venir et ils trouvent refuge. Et il y a dans cet arbre aussi une atmosphère. Alors, il y a quelque temps, enfin, c'était l'été dernier, quand il faisait très chaud, j'étais avec un ami au restaurant. Et quand on est avec un ami, on a envie de parler encore longtemps, mais il fallait qu'on sorte. Donc on s'est abrité devant le vent, le restaurant, pour parler à l'ombre. Et finalement, le restaurant, ils ont replié le vent. Donc on est allé plus loin encore, on est allé sous un arbre. Et là, on a tout de suite constaté qu'en fait, sous l'arbre, il faisait beaucoup plus frais, alors qu'il n'y a apparemment que de l'ombre. Mais il faisait beaucoup plus frais, plus agréable. Il y a cette atmosphère qui dégageait de cet arbre. Alors, si je vous raconte, c'est pas purement biologique, hein, enfin par rapport à l'environnement, c'est juste que nous nous comparons à cet arbre qui offre un refuge aussi. Parce que nos racines sont dans le courant d'eau, sont dans cette eau qui vient du trône de Dieu. Et on parlait de joie, on peut parler de paix, toutes ces choses, on peut les puiser dans ce courant d'eau. Et ce que cela produit, c'est qu'en fait, on n'est pas dépendant des circonstances. On n'a pas... Il y a des mauvaises nouvelles qui viennent. Ça doit peut-être faire bouger nos feuilles et peut-être un peu nos branches, mais ça ne va pas changer notre identité. Ça ne va pas nous transformer, nous. Et dans ces temps que nous vivons actuellement, il y a beaucoup de circonstances qui peuvent nous faire chavirer ou perdre pied. Mais si nous sommes enracinés dans cette eau, dans ce courant d'eau, alors nous ne risquons pas d'être transformés ou ballottés à tout vent, comme le dit la parole de Dieu aussi. Alors hier, on était pleinement dans toutes nos racines déployées dans ce courant d'eau, et ça a vraiment fait du bien, ça nous a restaurés. Alors, je continue dans cette réflexion. Et cet arbre qui ne change jamais, il n'y a rien qui peut le faire changer et le perturber. Et en fait, il y a quelque temps, il y a Anne qui nous a exhorté à bénir nos ennemis, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, ça m'a resté collé comme un sparadrap. Bénir nos ennemis, j'ai réfléchi à ça tous les jours qui ont suivi. Et je faisais le constat que oui, il y a des choses, je serais capable. Et en fait, quelques jours après, il y a eu l'invasion du Haut-Karabakh en Arménie, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, j'ai lu l'histoire d'un agriculteur qui avait 3 employés, qui avait des animaux, et il a dû partir pour sauver sa vie, et il a laissé tout sur place. Donc là, j'ai eu de la haine qui est montée. Et je me suis souvenu de cette exhortation de bénir, et là je me dis, c'est déjà un peu plus dur. Et est-ce que pour les Arméniens qui ont vécu ça, ce texte est valable aussi? Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce qu'il y a une limitation à ce verset? Pour les Arméniens, c'est trop dur, quoi. Et en fait, le constat, si on veut être honnête, c'est que non. La parole s'adresse aussi dans cette situation. Et je me suis donc remis en question, je me suis dit, ben, si eux doivent bénir leurs ennemis, alors ce n'est pas moi de me charger de la haine, je dois aussi bénir. Et un peu plus tard, ça n'a pas duré longtemps, il y a eu le 7 octobre en Israël, et là encore une fois, je me dis, mais là on est en crâtin vite, est-ce que c'est encore... Est-ce que c'est encore possible dans cette situation? Jésus nous dit que oui, c'est encore possible. Alors, c'est toujours à mettre en relation avec cet arbre. C'est parce que les racines sont au bon endroit que c'est possible, malgré tout ce qui se passe autour. Alors, il y a eu ces deux événements qui ont vraiment choqué, et je pense que tout le monde a été choqué. Alors, je veux juste faire une parenthèse, je vous avais parlé aussi quelques années en arrière des sphères de gouvernance. Alors, ça ne veut pas dire que si quelqu'un a fait du mal, on se contente de dire « T'inquiète, je te bénis ». Ce qui a été mal fait doit être repris, et il y a des sphères de gouvernance personnelles. Donc, dans cette sphère-là, moi, je bénis, je pardonne, j'aime. Mais il y a aussi la sphère de gouvernance de l'État de droit, et là, il y a des règles. Celui qui a fait du mal doit être repris, doit être jugé, et éventuellement condamné. Donc, c'est pas ce que je suis en train de dire, que Jésus nous demande, il ne faut pas s'en faire, béni. Non, il y a des choses qui doivent être restituées, il y a des choses qui doivent être remises en ordre, mais dans notre sphère personnelle, notre attitude, ça doit toujours rester de bénir. Alors, on peut prendre d'autres thèmes. Hein. On peut prendre, par exemple, l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien. Là encore, on peut ne pas s'inquiéter. Et puis parfois, il y a des situations un peu difficiles, mais on arrive à passer par-dessus. Et il y a quelques jours, on est allé rendre visite à un agriculteur chrétien avec le groupe qui veut organiser la journée des agriculteurs l'année prochaine. On est allé voir si sa ferme était adaptée. Donc c'était dans la montagne, dans la vallée des Villers. Et cet agriculteur produit des sapins de Noël. Alors j'en ai profité pour acheter le sapin de Noël. Je me dis là, pas de problème, avec 4 hectares de sapin de Noël, on va bien trouver. Et là, l'inquiétude est montée. Est-ce que je vais trouver le bon? Parce que finalement, plus il y en a, moins c'est facile de choisir. Et puis, donc il pleuvait, j'ai quand même passé une heure à choisir. Et après, le principe, c'est que il met à disposition des scies et il faut scier le sapin qui nous convient. Et après, il donne à chaque personne qui achète un sapin un calendrier de Noël, enfin un calendrier pour l'année prochaine, avec des versets bibliques, des recettes, des parties où on peut inscrire les rendez-vous. Donc c'est vraiment le choix qu'il a fait de faire venir les gens chez lui afin de pouvoir les bénir. Donc je me suis inquiété pour ce sapin. Après, je me suis encore inquiété, est-ce qu'il va plaire à Isabelle qui doit le décorer? Et donc, quand je suis rentré, en fait, je me suis rendu compte que les dimensions de notre salon n'étaient pas les mêmes que dans le champ. Et donc, il fallait couper en bas, il fallait couper en haut. Et finalement, il est rentré, mais il était énorme. Alors, on s'inquiète encore. Est-ce que les guirlandes vont être assez grandes? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ça paraît ridicule, comme ça, les inquiétudes, c'est complètement... c'est pas important. Mais en fait, j'aime à le raconter parce que finalement, souvent, on s'inquiète pour des petites choses. Et ça nous prend la joie, ça nous prend la paix, mais pour des choses ridicules. Donc, si on prend un peu de recul, on se dit, mais non, c'est pas grave. Donc, ça, on arrive à le faire, on va dire... on relativise, on ne s'inquiète pas. Ensuite, je devais semer du blé et il n'arrêtait pas de pleuvoir. Après, je commence aussi à m'inquiéter parce que ben, si je n'arrive pas à semer, il n'y a pas de récolte. Et même si on arrive à semer plus tard, ben, ça implique quand même des baisses de rendement et des problèmes supplémentaires. Donc, encore, c'est une inquiétude. Seigneur, tu connais toutes choses. On peut déposer. Et après, on entend que dans le Pas-de-Calais, il y a des gens dont la maison est sous l'eau pendant 2 semaines, enfin plus de 2 semaines. Alors je me suis dit, est-ce que ces gens-là peuvent aussi dire, est-ce qu'on peut leur dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est écrit dans Philippiens 4, verset 6. Et là encore, force est de constater que pour eux aussi, ce verset est valable. Alors je me sens un peu bête avec mon sapin ou avec mon blé quand je vois ces gens qui perdent tout et qui sont invités aussi à ne pas s'inquiéter. Alors certainement qu'il y a des chrétiens qui étaient là-bas, qui vivent là-bas, qui ont été concernés par ces inondations. Donc c'est possible quand nos racines sont enracinées. Que quoi qu'il arrive, je suis enraciné dans la parole de Dieu qui m'invite à ne pas m'inquiéter, qui m'invite à bénir. Donc même si mes feuilles sont bousculées, elles bougent, si les branches tremblent, parfois même il y a une ou deux branches qui cassent, mais ce qui me fait vivre, ce qui me nourrit, c'est la parole de Dieu. Alors, là où j'aimerais vous emmener ce matin, c'est que quand on marche avec le Seigneur, il arrive un moment où notre raisonnement humain doit capituler. Alors, on a regardé dernièrement quelques épisodes de la série Chosen, je ne sais pas si vous avez regardé, je vous encourage à regarder. Et En fait, là, c'était l'épisode où ils emmènent un paralytique, ils le font passer par le toit pour que Jésus puisse le guérir. Et à un moment donné, il y a Pierre qui est sur un côté de la maison et Marie de l'autre côté. Ils se regardent et il y en a un qui dit à l'autre, on a de la chance. Et ils disent, oui, ils ont de la chance. Ils vivent avec Jésus, il se passe des trucs de dingue. Et en fait, ils ont de la chance jusqu'au moment où Jésus leur dit, on va aller, je ne sais plus où vous devez aller, et il leur dit, on va passer par la Samarie. Ouais, quoi, la Samarie? Mais non, la Samarie, on va se faire massacrer. Et donc là, Jésus avait un rendez-vous avec la femme samaritaine, donc ils sont allés en Samarie. Et les disciples, c'était bizarre pour eux. Et ça me fait penser à toute cette foule qui suivait Jésus, qui voyait les miracles, et qui se sont dit, ah, ça c'est quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qui change les choses. La prochaine étape, maintenant qu'il est connu, ça va être de mettre les Romains dehors. Et en fait, Jésus vient avec des histoires comme il faut pardonner 7 fois 77 fois, il faut passer par la Samarie, il faut même celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme, ou qui ne boit pas son sang, n'a pas la vie en lui-même. Enfin, des trucs bizarres quand même. Alors que nous, on attendait la délivrance. Alors, nous, on est loin de ces considérations, puisque nous, on a compris les choses. Enfin, je rigole. Hein. Parfois, on aime bien être dans cette phase de la vie chrétienne où on a de la chance. On a rencontré Jésus. Il a pardonné nos péchés, on peut repartir à zéro, on a la liberté, on est dans la joie, on a de la chance. Mais à un moment donné, dans l'étape avec le Seigneur, il nous emmène dans des situations où on a moins de chance, on vit hein, quand même, il abuse. C'est pas ce qu'on attendait, c'est pas ce qui était prévu. Et donc là, il y a cette histoire... du jeune homme riche dans Marc 10, ce jeune homme qui vient demander à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, et Jésus lui parle des commandements, et ce jeune homme riche lui répond que j'ai respecté toutes ces choses depuis ma jeunesse, et Jésus le regarde, le regardant, ça c'est dit, l'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Et cette phrase, je trouve ça assez dingue, cette phrase. Il te manque une chose. Et je me suis posé la question. Moi, j'ai posé la question, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il me manque à moi? Quelle est la chose? Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on veut plus. Enfin, moi, j'aimerais plus. J'aimerais entrer dans une dimension plus profonde avec le Seigneur. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me manque? Et là, le Seigneur veut nous rencontrer, comme Luc nous l'a déjà dit ce matin, dans cette table autour de repas, et veut nous expliquer un peu la vie, veut nous montrer ce qui nous manque. Donc Jésus nous emmène dans des situations. On parlait avant de bénédiction, de ne pas s'inquiéter. Jésus nous emmène dans des situations où ça va plus loin que simplement la chance et les choses agréables. Mais parce qu'il veut réellement nous transformer en profondeur. Il veut que nos racines soient enracinées au bon endroit. Et d'ailleurs, quand il dit à la foule, si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas de son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et là, c'est étonnant, c'est dans Jean 6 que c'est dit. Ce qui est étonnant, c'est dans Jean 6, 66, il est dit, à ce moment-là, beaucoup de ses disciples le quittèrent. Et donc c'est ce point de rupture où là, il a exagéré. là, ça ne vient plus de Dieu, ce qu'il nous raconte. Et hier soir, on était peut-être un peu aussi dans des situations où notre raisonnement humain se dit, bon, c'est pas quand même. Mais il n'y avait pas l'esprit religieux, et donc les choses ont pu se vivre dans la liberté. Mais on est parfois dans des situations comme ça où notre raisonnement est un peu perturbé et on se dit quand même, mais Jésus veut nous emmener plus loin. Et là, il demande à ses disciples, vous aussi, vous voulez me quitter? Et alors Pierre répond, alors je prends juste la référence pour dire. Moi, je n'ai pas noté la référence, mais c'est dans Jean 6, en tout cas. Après que beaucoup de disciples, enfin de gens qui le suivaient, soient partis, et Pierre répond, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Pierre dit, et nous croyons et nous savons que tu es le Fils de Dieu vivant. Le Messie. Et moi, je trouve cette expérience de connaître Jésus tellement forte que tout le reste, si vraiment on a rencontré Jésus, tout le reste ne peut pas nous perturber. Enfin, ça peut nous perturber, mais c'est parce qu'on croit en lui, on continue. On n'est pas de ceux de dire, c'est trop, salut, je retourne des endroits plus calmes. Il y a quelques années en arrière, j'étais à une conférence, je vous ai déjà parlé aussi, mais ça fait longtemps, et une conférence sur la réconciliation en Suisse entre l'Église réformée et les anabaptistes. Et donc, dans l'histoire de Suisse, dans d'autres pays aussi, mais ce qui était vraiment fort, c'est qu'il y avait la Grossmünster à Zurich, donc l'église principale de Zwingli, et les chrétiens venaient à cet endroit-là pour adorer Dieu. Donc ils étaient issus de la réforme, ils avaient d'autres manières de célébrer que l'église catholique, mais il y avait cette église, et les anabaptistes qui sont venus, alors je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais pour résumer, en gros, ils ont dit, on ne peut plus être d'accord avec notre façon de célébrer le culte, on veut être plus radical, parce qu'il y a des choses de la parole de Dieu qui ne vont plus avec notre manière de faire, entre autres. Ils ne voulaient plus baptiser les enfants. Ils voulaient que ce soit sur une profession de foi personnelle qu'on était baptisé. Ils voulaient enlever certains éléments du culte. Et donc, ils ont été déclarés hérétiques et ont été persécutés. Et dans la Suisse, en fait, ils ont construit beaucoup d'églises en spoliant les biens des anabaptistes pour être plus proches du peuple et pour mieux pouvoir surveiller. Donc ça, c'est pour l'arrière-plan de cette histoire de conférence. Et là, il y avait donc les pasteurs réformés qui se sont renseignés sur la façon de baptiser. Et ils sont tombés sur cette histoire et ils se sont rendus compte que l'endroit où on célèbre nos cultes a été construit sur une injustice, sur la persécution des anabaptistes. Il faut rétablir les choses. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, il y a eu ce rendez-vous. Et donc ces anabaptistes, ils étaient noyés, ils étaient brûlés, ils étaient suspendus au mur. Et l'espérance de vie d'un pasteur anabaptiste, c'était 2 ans. Donc quand on choisissait de suivre le Seigneur, c'était un peu compliqué. Et je me posais la question, mais comment c'est, parce que là on était dans cette atmosphère de réconciliation, mais on recevait aussi vraiment en pleine figure toute l'histoire. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, comment c'est possible d'aller dans un chemin comme ça? On sait que c'est la mort. Et pendant ce week-end, j'ai prié, j'ai été vraiment visité. Il y avait cette onction de la présence de Dieu qui était là. Et je devais partir plus tôt pour apporter un message, pour accueillir un pasteur, en fait, dans l'église où on était. Et dans la voiture, je me suis dit, bon, là, on était dans l'ambiance. Maintenant, retour à la réalité, quoi. Peut-être que c'était que artificiel, parce que dans l'ambiance. Et dans ma voiture, il y a cette parole qui est venue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est maintenant. Et là, dans ma voiture, moi j'étais submergé. Mais telle présence et telle connaissance de la liberté. Et en fait, la liberté, c'est une personne, c'est Jésus. Tellement convaincu de cette liberté que pour moi, c'est devenu évident. Je préfère mourir que de perdre ça. Et là, j'ai compris que ces ancêtres anabaptistes, ben, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont rencontré Jésus d'une manière tellement réelle et cette liberté en Christ qu'ils ne pouvaient tout simplement pas faire autrement. Et ils préféraient mourir que de répondre aux injonctions qu'on leur faisait. Reniez cette foi et vous pouvez revenir dans vos terres ou dans vos maisons. Alors, je vous raconte ça, ça me bouleverse un peu, mais je vous raconte ça dans le sens où rencontrer Jésus, c'est tellement une réalité qui transcende tout le reste. On peut être opprimé, on peut être persécuté, mais quand on est avec Jésus, alors on est inébranlable. Comme cet arbre près d'un cours d'eau. Alors ce n'est pas par nous-mêmes, hein, bien sûr, qu'on arrive à affronter toutes ces situations, mais c'est parce que Christ vit en nous. Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est dans Colossiens 1, au verset 27. C'est pas nous qui sommes capables de bénir nos ennemis, c'est pas nous qui sommes capables, par nos inquiétés, par nos forces, alors on peut faire des efforts, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça arrive à un certain point, mais après, après c'est plus possible. Mais avec Jésus, c'est toujours encore possible. Alors, si Christ est en nous, alors on peut dire, par exemple, quand on lit 1 Corinthiens 13, on remplace le mot amour par Jésus. Et c'est Jésus en nous. Jésus est patient. Jésus ne s'en fait pas d'orgueil. Et toutes ces choses qui sont racontées dans 1 Corinthiens 13, c'est parce que Jésus est en nous que je peux vivre toutes ces choses. Alors la question que je me pose, c'est où sont nos racines? Et moi je constate dans ma vie que parfois il y a des sujets, quand quelqu'un les touche dans ma vie, je deviens différent. Est-ce que ça vous arrive? Je deviens impatient, je deviens pas méchant. Mais... Vous me connaissez, mais... Donc, je deviens différent. Différent de quelqu'un qui a Jésus en lui. Et alors je me dis, bah, cette racine, il faut la couper. Alors on peut avoir des racines, par exemple, on regarde les informations, alors peut-être ces derniers temps, on regarde un peu plus que d'habitude. À force de regarder les informations, on a une racine qui traîne dans les égouts. Et puis on commence à avoir peur, on commence à être inquiet, on commence, comme j'ai dit tout à l'heure, avoir de la haine. Donc il faut enlever cette racine. Alors, je ne sais pas si on peut la retirer et la mettre ailleurs ou s'il faut juste la couper. Mais en tout cas, vous comprenez le principe. C'est si nous ne sommes pas toujours pareils, enfin, comment dire, bien sûr, tous les jours, on doit recommencer, on doit se replacer dans le Seigneur, mais s'il y a des choses qui nous perturbent dans le sens où c'est récurrent, c'est dès qu'on touche à ça... Là, il y a quelque part une racine qui n'est pas encore dans le fleuve de vie. Et ça rejoint cette question de tout à l'heure, enfin, cette affirmation de Jésus, il te manque une chose. Donc j'ai discuté avec un monsieur âgé ces derniers temps, et il m'expliquait qu'il n'est pas religieux. Il a fait du bien autour de lui, il a fait tout ceci, il a fait tout cela, il m'a expliqué tout ce qu'il a fait. Et en même temps, il me dit, je n'ai toujours pas pu pardonner à celle qui m'a mis au monde. Alors il n'arrive même pas à l'appeler mère, donc je me dis, mais ça c'est quelque chose qui lui manque. Il te manque une chose, tu as fait beaucoup de bien. Alors bien sûr, c'est pas juste, Jésus ajoute, Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et suis-moi. Donc c'est pas juste vends tout ce que tu as, c'est bon. Non, suis-moi. Et en fait, c'est ça le défi qui nous est posé. Suis-moi. S'il y a une chose qui te manque, qui t'empêche de me suivre, il faut la vendre. Si c'est un manque de pardon, si c'est peut-être une erreur que tu as faite, que tu n'as pas à régler, que vraiment nous puissions laisser Jésus venir. Et Luc a dit ce verset, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est dans un contexte de lettre aux églises qu'il dit ceci. Et ça me fait penser qu'en fait, ces lettres aux églises, c'est aussi un peu, il te manque une chose. Alors, c'est pas dit comme ça, c'est ce que j'ai contre toi. Et par exemple, une chose qui manque, c'est le premier amour. Alors, Luc a dit, c'est la série de « Je frappe, et si vous m'ouvrez, j'entrerai chez vous, je suis prêt avec vous. » Alors ça me fait penser encore à une chose qui me manque. En réfléchissant à ce texte, je me suis rendu compte qu'il me manque de la simplicité des premiers moments avec Jésus. Parce qu'avec le temps de la vie chrétienne, on apprend beaucoup de choses, on a beaucoup de connaissances, on a fait des expériences, bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, pour moi, je me suis rendu compte que parfois, je peux devenir compliqué. Et tout récemment, quand j'ai terminé de semer mon blé, c'était tard le soir, et après, il devait pleuvoir, et puis, donc je suis rentré, et le lendemain, je me suis dit, « Ah mince, j'ai pas prié sur le champ pour bénir la semence. » Et donc, parce que je me suis rappelé qu'on peut prier pour la terre, bénir et tout ça, Et là, je t'ai repris, le Seigneur me dit, mais est-ce que je n'étais pas avec toi quand tu as semé le champ? Est-ce que je n'ai pas marché avec toi sur ce champ? Est-ce que je n'ai pas laissé mon empreinte dans le champ? Pas besoin de stresser si je n'ai pas prié. Alors bien sûr, on bénit les choses qu'on a, etc. Mais vous voyez la nuance. Donc moi, j'ai constaté ça, il me manque la simplicité parfois. Et cette spontanéité du premier amour avec Jésus. Alors hier, dans le temps de louange, je veux terminer avec ça. Pendant le temps de louange, il y a eu ce mot qui m'est venu, résignation. Résignation, c'est aussi quelque chose qui n'est pas juste, alors peut-être ça touche quelqu'un ici ou tout le monde, mais la résignation, c'est pas le contentement. On est invité dans la parole de Dieu à nous contenter de ce qu'on a. La résignation, c'est pas ça. La résignation, c'est de dire que ça sert à rien, ça va pas changer. Lui qui nous parle ce matin, il y a des choses qu'il a déposées, mais ça va encore traîner, quoi. C'est ça, la résignation. C'est de dire il n'y a plus d'espérance dans la résignation. Et hier, ce mot m'est venu. Alors peut-être c'est aussi la résignation par rapport à notre situation dans nos familles, nos choix. Bon. Et ce matin, j'aimerais prier par rapport à ça, si c'est une racine qui doit être coupée dans nos vies, que cette résignation, on la rejette, parce que Jésus vit en nous. Il est la source de la vie, de la joie, de la paix, de tout ce dont on a besoin. Il est la vie éternelle en nous. Et il ne peut pas y avoir de la place pour la résignation. Alors c'est juste quelque chose peut-être que Dieu met en lumière par rapport à parmi d'autres choses. Mais si ce message vous a parlé, vous savez que vous pouvez laisser entrer Jésus et qu'il parle personnellement des choses qu'il a à changer dans votre vie. Seigneur, je te remercie parce que tu tiens la porte. Tu es prêt. Tu es tout près de nous. Tu es là. Et tu veux entrer en communion avec toi. Et Seigneur, pardon, là, nous avons laissé la porte fermée parce que nous étions trop occupés. Pardon, là, nous avons laissé la porte fermée parce que nous savions qu'il fallait faire. Ce matin, Seigneur, nous ouvrons la porte et nous te laissons entrer. Viens dans chacune de nos vies, Seigneur, et merci parce que nous pouvons avoir ce temps de communion avec toi. Non pas juste maintenant, mais tous les jours de notre vie, nous pouvons nous asseoir avec toi à table et avoir cette intimité avec toi. Et nous savons que cette table est dressée en face de nos adversaires. Quelles que soient nos circonstances que nous traversons, quelles que soient nos difficultés, Seigneur, nous pouvons rester en paix avec toi. Et ce matin en particulier, Seigneur, je veux apporter cette résignation pour l'avoir dans nos cœurs. Je dépose cette résignation, Seigneur. Je me repens de la résignation que j'ai laissée s'installer dans ma vie. Et tout esprit de résignation, maintenant, je brise dans le nom de Jésus. Nous le lions à la croix. Et Seigneur, ce matin, nous accueillons cet esprit de vie éternelle, cette abondance de vie dans tous les domaines, Seigneur, de notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser intimider. Nous ne voulons plus nous laisser restreindre dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Parce que tu habites en nous, en plénitude. Seigneur, nous voulons te glorifier, t'élever. Que vraiment ton nom soit connu autour de nous. Que parce que tu vis en nous, nous soyons ces arbres plantés près d'un courant d'eau. Que nos voisins, que nos amis, que notre société puissent venir trouver du refuge et puissent te recevoir aussi dans ce refuge. Oui, Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié. Amen.